Leçon numéro 91. Les questions des hommes et les réponses de Dieu. Suite et fin. Assalamu alaikum, amis qui êtes à l'écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de paix, qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu'il a établi et qu'il ait pour toujours la paix véritable avec lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd'hui vous présenter votre émission « Le chemin de la justice ». Chers auditeurs, après ces salutations, nous voulons continuer ce que nous avons commencé dans la dernière émission, c'est-à-dire répondre à vos questions que vous nous avez posées dans vos courriers. Nous remercions tous ceux qui nous ont envoyé des lettres avec des questions. Avant de commencer, une chose doit être claire. En répondant à vos questions, nous n'osons pas nous baser sur nos propres connaissances ou sur quoi que ce soit d'autre. Nous nous basons uniquement sur la parole de Dieu. Nous ne voulons rien connaître d'autre que ce que Dieu nous a fait connaître dans les Saintes Écritures. Ce que le prophète Jean a dit dans l'Injile est vrai.
Jean chapitre 3 verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Revenons maintenant à vos questions. 1. Vous avez dit dans une émission, ce qui est mauvais ne peut pas venir de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que Dieu a créé d'abord ce qui est mauvais avant de faire ce qui est bien. Merci. Les sages disent qu'on ne répond pas une question avec une autre question, mais peut-être que nous pouvons malgré tout répondre à cette question avec une autre question. Cette question est la suivante. Dieu peut-il tolérer le mal? Le prophète Habacuc a écrit.
Habacuc chapitre 1 verset 12 à 13. Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu peux pas regarder l'oppression.
Donc, si Dieu ne peut pas regarder ce qui est mauvais, nous ne devons pas croire qu'il peut créer ce qui est mauvais. Nous ne pouvons pas répondre maintenant en profondeur à cette question, mais la parole de Dieu nous montre que le diable et le cœur de l'homme sont la source de tout ce qui est mauvais et que Dieu et sa parole sont la source de tout ce qui est bien. C'est ce que les Écritures déclarent quand elles disent. Jacques chapitre 3, le verset 11. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, le verset 13 à 14. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. La prochaine question est la suivante. Si Dieu est saint et plein de miséricorde, comme vous l'avez dit, pourquoi alors reste-t-il à regarder les disputes et les guerres, les meurtres et la méchanceté du monde sans rien faire? Ne peut-il donc rien faire pour aider les gens en difficulté? Oui, Dieu est le Seigneur de miséricorde, et ce qu'il devrait faire pour aider les gens en difficulté, il l'a déjà fait. Il a envoyé le juste Rédempteur, Jésus-Christ, pour réconcilier les hommes avec lui-même. Par conséquent, avant de pouvoir se réconcilier entre eux, il faut tout d'abord que les gens croient au Seigneur que Dieu a envoyé et qu'ils se soumettent à lui. Pour nous tous, quand notre relation avec Dieu est bonne, alors notre relation avec les autres hommes commencera à être comme il faut. Si c'est ce qui se passe, il y aura la paix parfaite. Voyez-vous que tout dépend vraiment de nous. Nous devons accepter le remède que Dieu a donné. En ce qui concerne les choses mauvaises qui remplissent la terre et la détruisent, la parole de Dieu proclame que le Seigneur Jésus-Christ va revenir à la fin des temps pour juger tous ceux qui ne croient pas à la vérité et prennent plaisir au péché. Et quand le Seigneur Jésus aura vaincu tous les ennemis de Dieu, alors il renouvellera toute la création. Et alors, ce qui est écrit dans les Écritures s'accomplira.
Apocalypse chapitre 21 verset 4 et Apocalypse chapitre 22 verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
La troisième question que nous avons aujourd'hui est la suivante. Il y a quelque chose qui me trouble. J'estime que si je pêche, quel que soit le péché commis, les conséquences doivent tomber sur moi, mais pas sur mes enfants parce qu'ils ne l'ont pas commis. Mais vous, vous dites que le péché commis par notre ancêtre Adam dans le jardin du paradis s'est étendu à tous les enfants d'Adam et que Dieu doit les punir. Comment cela est-il possible? Vous savez que les sages disent, les conséquences d'un désastre ne se limitent pas à celui qui en est à l'origine, et à la gazelle qui ne saute par-dessus de l'obstacle et ensuite ses petits passent au travers. C'est vrai, n'est-ce pas? Et nous sommes tous d'accord que si vous avez un enfant et qu'il grandit dans votre maison, c'est de vous, ses parents, qu'il recevra les mauvais côtés de son caractère, que ce soit votre façon de parler, de vivre, de penser ou votre façon d'agir. Or, nous appartenons tous à la famille d'Adam et Ève. Nous sommes les descendants de ceux qui ont désobéi au commandement de Dieu. Et qui d'entre nous peut dire ne s'être jamais écarté du chemin du commandement de Dieu, pas même une seule fois? Personne, absolument personne. Cette nature de désobéir au commandement de Dieu qui est dans notre cœur, de qui l'avons-nous hérité? D'Adam, car le péché qui était en lui s'est étendu à nous tous. Que cela nous plaise ou non, il en est ainsi. C'est exactement ce que la parole de Dieu déclare en disant.
Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Cependant, tout espoir n'est pas perdu, car la parole de Dieu dit aussi.
Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
Maintenant, nous pouvons passer à une autre question, si vous le voulez bien. Pourquoi la Bible est-elle divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? En bref, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que les prophètes ont écrit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Première Alliance, ils l'ont écrit avant la naissance du Messie. Mais tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, ils l'ont écrit après la naissance du Messie. Le message des prophètes de la Première Alliance était « Dieu va envoyer le Messie ». Et le message de la Nouvelle Alliance est « Dieu a envoyé le Messie tout comme il l'avait promis par ses prophètes ». Par conséquent, ne nous laissons pas troubler par le fait que la Bible a deux parties. Mais plutôt, remercions Dieu de tout notre cœur de ce que les Écritures saintes comportent une première alliance et une nouvelle alliance. Car dans ces deux parties, nous voyons que ce que Dieu a promis il y a tellement longtemps, il l'a accompli. Dieu nous a envoyé un sauveur comme il l'avait promis à nos ancêtres dans la Torah, le Zabour et les écrits des prophètes. Comme la graine du pain de singe grandit pour devenir un baobab, de même la première alliance arrive à maturité dans la nouvelle alliance. Voici quelqu'un qui demande. On dit que l'homme ne peut pas savoir s'il ira au ciel ou en enfer. Dieu seul le sait. Mais vous, vous dites que vous savez que si vous mouriez aujourd'hui, vous iriez au ciel. Sur quoi basez-vous cette parole? Permettez-nous de répondre à cette question par une autre question. Ce que nous voulons demander, c'est, Dieu peut-il revenir sur sa parole? Ou bien tient-il fidèlement sa parole? Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est Dieu lui-même qui dit. Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et aussi, 1 Jean chapitre 5, verset 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Puisque Dieu lui-même a dit que vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle, qui sommes-nous pour dire que personne ne peut savoir où il va passer l'éternité, que personne ne peut savoir où il ira après la mort. Chers amis, vous pouvez savoir où vous irez après la mort. La question, c'est, faites-vous confiance au Seigneur Jésus et à son sacrifice parfait? Ou bien avez-vous confiance en vos propres bonnes œuvres? Seuls ceux qui font confiance à Christ peuvent dire en toute sincérité, je sais que j'ai la vie éternelle. Ici, quelqu'un demande, le Consolateur dont Jésus a annoncé qu'il viendrait après lui et qui s'appelle Paraclétos en langue grecque, est-il venu? S'il est venu, qui est-il et quand est-il venu? Comme nous l'avons lu dans l'Injile, nous avons entendu qu'avant de retourner au ciel, le Seigneur Jésus a fait une promesse à ses disciples en disant, Jean chapitre 14, les versets 16 à 17, Actes chapitre 1, les versets 4 à 5. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Il est important de comprendre ce que Jésus a promis à ses disciples par rapport à la venue de ses consolateurs. Car certains aujourd'hui veulent faire croire aux autres que Jésus annonçait la venue d'un autre prophète. Mais le consolateur qu'il a promis ne peut être un être humain. Car Jésus a clairement déclaré qu'il sera un esprit et que personne ne pourra le voir et qu'il vivra dans les disciples de Christ pour toujours. Alors, qui est ce Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit qui a inspiré les prophètes pour qu'ils écrivent et annoncent la parole de Dieu dans les temps anciens. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Très-Haut qui est descendu sur une vierge du nom de Marie afin qu'elle puisse concevoir et donner naissance au Saint-Enfant. C'est l'Esprit qui était dans le Messie Jésus. C'est aussi l'Esprit que Dieu met dans le cœur de tous ceux qui croient au Messie pour les faire naître de nouveau, les purifier, les fortifier, mettre sur eux un signe qu'ils appartiennent à Dieu et pour qu'ils soient pour toujours dans sa sainte présence. C'est ce que les Écritures disent.
Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.
Pour nous qui croyons, le Saint-Esprit est notre aide, notre guide, notre force, notre enseignant et beaucoup plus encore. Il fait tant de choses pour nous que nous ne pouvons pas commencer de les mentionner toutes. Une manière dont il nous aide, c'est dans nos prières. Il y a une grande différence entre réciter une prière et prier vraiment Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à prier de vraies prières à Dieu, comme il est écrit.
Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Tous ceux qui croient vraiment l'évangile de Christ ont cette invité céleste vivante en eux. Les Écritures disent.
Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
La dernière question à laquelle nous pouvons encore répondre aujourd'hui est celle-ci. Si j'ai bien compris ce que vous avez enseigné concernant Jésus et le salut, alors je peux croire en Jésus comme mon sauveur, puis je peux vivre comme je veux et faire le mal, et quand je meurs, j'irai au paradis. Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? Notre temps d'émission est presque à sa fin. Mais ce que nous pouvons vous dire courtement, c'est que cela nous plaise ou non, le message de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix et de sa résurrection du tombeau est le juste plan de Dieu pour délivrer les pécheurs du châtiment du péché et de son pouvoir. Et si vous acceptez cette bonne nouvelle dans votre cœur d'une foi sincère, la parole de Dieu affirme qu'à l'instant même, Dieu va accomplir deux œuvres en vous. D'abord, Dieu va pardonner tous vos péchés au nom de Christ comme il l'a promis. Deuxièmement, Dieu va renouveler votre cœur par la puissance du Saint-Esprit et vous allez alors commencer à aimer la justice et haïr le mal, car Dieu aura mis en vous sa nature sainte. C'est ce que l'Écriture promet quand elle dit.
2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et Tite chapitre 2 verset 14. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes.
Ainsi, quand quelqu'un croit vraiment le Seigneur Jésus-Christ, il ne pourra plus vivre comme il le désire, en continuant à faire le mal, car Dieu a mis son Saint-Esprit en lui. Et
Galates chapitre 25 verset 22. Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi.
C'est l'heure pour aujourd'hui, mais s'il plaît à Dieu, nous essaierons d'approfondir cette question dans la prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Nous vous quittons aujourd'hui avec cette parole tirée des psaumes du prophète David.
Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui.